Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la communication bienveillante et les données géographiques libres. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes le 23 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien. Salut Adrien.
Salut.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place à notre premier sujet. Nous allons commencer par la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, qui nous commentera aujourd'hui un texte de 2018, Charte de GNU pour une communication bienveillante. Une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après, dans une douzaine de minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU, c'est la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Le thème de ta chronique aujourd'hui, c'est « Charte de GNU pour une communication bienveillante ».
Oui, et je dirais, Fred, que ceci nous concerne très directement, parce que comme le cœur de métier de l'April est la promotion et la défense du logiciel libre, il nous faut, bien sûr, pour sensibiliser, nous adresser à l'ensemble des utilisateurs de logiciels, quelles que soient leurs particularités, quelles que soient leurs valeurs, soit quoi elles tiennent, il est important de faciliter l'échange. Et ici, dans ce très beau texte de 2018 qui a été traduit par Patrick Creusot, qui a été révisé par Trad GNU de l'April, Richard Stallman montre que la bienveillance est une ouverture d'esprit qui s'adresse à l'autre avec des mots qui conviennent, sans décourager, sans brusquer, sans choquer. Et ce texte est composé de deux parties. D'abord, il y a le rappel des objectifs du projet GNU, et ceci découle sur des recommandations. Et ensuite, il y a une très brève conclusion qui elle-même est bienveillante et optimiste. Alors tout d'abord, le rappel des objectifs du projet GNU. Richard Stallman dit quelle est la teneur universelle de son projet de libérer l'informatique, de donner l'autonomie à l'utilisateur, et ceci requiert qu'on s'adresse à tout humain appelé à faire usage du logiciel, ce qui veut dire que le militant libriste doit avoir conscience de la diversité des êtres auxquels il s'adresse. Alors à la fois pour dire à quelles conditions on peut faire son informatique comme on veut, et aussi pour suggérer à ceux qui sont devenus autonomes de contribuer à la cause du logiciel libre en faisant passer le message. Et donc il faut, puisque la variété des existences est grande, s'adresser aux uns et aux autres. Et là, je cite ce qu'écrit Richard Stallman, « Quelle que soit leur identité de genre, leur race, leur groupe ethnique, leur apparence physique, leur religion, leur parcours culturel ou autres caractéristiques démographiques, et quelles que soient leurs opinions politiques. » Et donc là, on voit tout à fait que Richard Stallman est dans la lignée de la Déclaration universelle des droits qui ont été reconnus à tout humain. Et en effet, il existe toujours un risque, quand on sensibilise, un risque de forme de communication qui serait dissuasive, peut-être rebutante, parce que si on ne fait pas attention, le langage qui s'adresse aux utilisateurs peut être perçu comme intrusif et éventuellement hostile. C'est ce que note Richard Stallman. Alors, j'en viens à l'ensemble de recommandations. Tout d'abord, il y a une règle d'or. C'est la base, qui est qu'il faut supposer que la personne à laquelle on s'adresse est de bonne foi. Et donc, il faut prendre en considération ce qu'elle dit. Il faut toujours rester dans le respect et dans l'accueil. Et surtout, si on doit argumenter, si on doit répondre à ce que dit quelqu'un, il faut toujours le faire en se référant à ses arguments sans du tout s'en prendre à sa personne. Ça, c'est la règle d'or. Et cette règle d'or, elle est réversible, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi pour celui qui parle, pour celui qui sensibilise. Parce qu'en effet, si la personne à laquelle vous vous adressez argumente contre ce que vous dites, il faut bien avoir en tête qu'elle ne s'en prend pas du tout à vous-même, même si le ressenti est douloureux. Et donc, il faut absolument éviter de répliquer du tac au tac. Il faut éviter l'escalade verbale qui serait contre-productive, qui utiliserait de l'énergie pour un résultat désastreux. Et donc, à supposer que les personnes auxquelles vous vous adressez utilisent des logiciels non libres, alors il ne faut surtout pas dramatiser, il faut relativiser pour commencer en ayant un contexte favorable pour toutes les suggestions que l'on va faire ensuite. Et donc, ce sur quoi insiste Richard Stallman, c'est que la persuasion est fructueuse alors que le harcèlement, bon, dire un certain nombre de fois à une même personne que vraiment elle se fait avoir si elle n'utilise pas du logiciel libre, le harcèlement, lui, est contre-productif. Et là, il y a tout un paragraphe où Richard Stallman, en stratège, il aime beaucoup les jeux, demande à ce qu'on regarde ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et là, il se réfère à un jeu en particulier qui est le jeu de Go. Si le joueur qui est en face fait un mouvement, fait une action dans le jeu, sans que ce mouvement soit décisif, alors il est peut-être intéressant de ne pas répondre directement à ce mouvement qui a été choisi. Il est peut-être préférable d'avancer sur un point qui est plus fondamental. Alors, que va-t-il se passer à la fin de ce texte ? Richard Stallman incite à accueillir les critiques qui peuvent être renvoyées à celui qui sensibilise, parce que ces critiques-là vont l'aider à s'améliorer, non seulement pour le travail de présentation du logiciel libre, mais pour son existence en général. Si on sait accueillir une critique, si on sait voir de quoi elle est faite, il peut y avoir pour soi-même un bénéfice réel. La fin du texte rappelle quels sont néanmoins les points fondamentaux non négociables de la philosophie GNU, ceux sur lesquels il ne faut absolument pas transiger. Le premier, les utilisateurs doivent avoir le contrôle de leur informatique. Le second qui en découle, ce qui revient à dire que le projet GNU soutient les droits humains fondamentaux. La conclusion de Richard Stallman est très confiante concernant l'usage de la bienveillance. Et donc, Fred, pour cette raison, je propose de terminer cette chronique par un sourire.
Bah écoute, merci Véronique. Alors, comme nous sommes à distance, nous sourions tous les deux, mais nous ne nous voyons pas. Ce texte, alors je le connaissais parce qu'il est relativement récent et effectivement il y a eu pas mal d'échanges autour. Et quand tu m'as dit que tu avais traité cette thématique, ça m'a fait penser à un courriel de Richard, mais il y a plusieurs années que j'ai retrouvé, donc 2014, dans lequel il disait, c'était dans un fil de discussion en anglais, qui concernait en fait notamment les questions de genre, et il disait, je lis, donc je traduis, « Notre préoccupation est de donner la liberté informatique à tout le monde. Nous ne sommes pas directement concernés par les relations de genre ou tout autre sujet du même genre, mais nous voulons que chacun se sente bienvenu à soutenir notre cause et rejoigne notre communauté. » Par conséquent, nous ne devrions pas faire quoi que ce soit qui rende mal à l'aise un groupe. Donc ça, c'est en référence au début de ton introduction, de ton texte, enfin du texte, notamment sur la partie bienveillance et sur la partie accueil des critiques. Effectivement, c'est pas toujours évident d'accueillir des critiques, mais il faut arriver à dissocier, en fait, comme tu le dis, la critique qui porte sur ce qu'on fait ou sur un projet et de nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos projets, nous ne sommes pas et donc il faut pas tout prendre uniquement pour soi. Et très souvent les critiques sont quand elles sont présentées de façon aussi bienveillante sont source d'amélioration. Et donc c'est pour ça que voilà, n'hésitez pas notamment par exemple sur l'émission de radio ou sur les activités globales de l'April à nous faire des critiques constructives. Nous les accueillerons avec plaisir et avec sourire.
Et avec sourire.
Voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Moi, je trouve que ce texte est très utile, puisque c'est vrai que nous faisons, alors maintenant, c'est vrai que c'est plutôt en distanciel, des prises de contact. Et c'est vrai que savoir écouter ce que dit celui qui en demande d'informations, de conseils ou d'interventions, je dirais que c'est la base. C'est vraiment très, très important.
Et il y a des formations pour ça, pour apprendre à écouter, sans. Parce que c'est vrai que souvent, nombreuses personnes, mais ça nous arrive aussi, on écoute en préparant déjà notre réponse, mais sans écouter forcément ce que la personne dit. Et donc, il est très important d'écouter ce que la personne dit avant de répondre, pour qu'effectivement, il y ait un échange tout à fait constructif. Mais je te remercie, Véronique. Donc, le texte que tu nous as commenté aujourd'hui était intitulé « Charte de GNU pour une communication bienveillante ». Tu as dit qu'il avait été traduit par Patrick Creuson. Mais nous saluons Patrick, qui est un bénévole à l'April et qui s'occupe de la régie de la radio ponctuellement, enfin une fois par mois. Donc, vous retrouverez la version française et la version originale sur le site de GNU, hein, gnu.org, donc GNU. Et si vous voulez aider à traduire les textes de la philosophie GNU en français, vous pouvez rejoindre le groupe TradGNU, les bénévoles, et vous allez sur april.org, vous allez dans nos groupes de travail, et vous trouverez les informations pour rejoindre ce groupe. Donc c'était la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle fin de journée à toi, Fred.
Merci.
Oui, bonjour. Alors, comme Fred vient de le dire, vous venez d'écouter la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet sur le texte de la charte de GNU pour une communication bienveillante. Un texte dont vous retrouverez, comme d'habitude, la référence sur la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. Une chronique enregistrée donc le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. Et puisqu'il était question d'écoute, de retour, de remarques, etc., que nous accueillons toujours avec grand plaisir à Libre à vous, je vous informe que juste après l'émission, nous vous proposons, enfin vous pourrez retrouver Fred pour une session d'échange en visioconférence. Voilà, si vous avez justement envie de poser des questions, faire des remarques, retrouvez-nous donc à 17h sur le site visio.libravou.org et là on pourra consacrer justement un temps tranquille d'échange avant de retrouver, voilà, de continuer notre soirée. Et puisqu'il est également question de retour, la semaine prochaine, enfin l'émission du mardi 30 mars sera une émission très particulière puisque ce sera la centième et voilà, ce l'occasion aussi d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à nouveau à nous faire des témoignages d'amour. Mais si vous avez des remarques, des idées, des projets, des questions surtout à nous poser, n'hésitez vraiment pas. C'est le moment de le faire. Voilà, on vous retrouvez des moyens de nous contacter sur la page april.org. Et puis je vais aussi en profiter enfin pour féliciter Véronique Bonnet qui a été réélue justement présidente de l'April ce week-end lors de l'Assemblée Générale de l'April qui s'est tenue le samedi 20 mars. Alors nous allons pour vous présent nous faire une pause musicale. Nous allons écouter Acrylic par Fog Lake. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune
93.1.
D'écouter Acrylic par Fog Lake, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Et trouver une présentation de l'artiste sur boutdufil.com. Excusez-moi, non, ça, c'est, il n'a pas été présenté sur ce site. Vous pouvez écouter l'émission Libre à vous sur Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Passons maintenant à notre sujet suivant. Alors nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Alors il s'agit d'une rediffusion de notre sujet long diffusé le 5 novembre 2019. Mon collègue Frédéric Couchet y échangeait avec Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de Ada ou la beauté des nombres. Katia Aresti, ingénieure logicielle chez Red Hat et membre de Duchesse France. Et Caroline Corbal de Code for France, membre d'Open Heroine France. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes, en direct sur Cause Commune, la voix des possibles.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de Ada ou la beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Katia Aresti, ingénieure logicielle chez Red Hat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia.
Bonjour.
Et normalement au téléphone avec nous Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Heroine France. Bonjour Caroline.
Bonjour, je suis là.
Super. Bienvenue à vous trois. Et une petite première question, même si je vous ai présenté très rapidement, une petite présentation personnelle. On va commencer par Caroline qui est au téléphone, c'est la situation la moins facile. Donc Caroline.
Oui, bonjour. Alors, bon, tu l'as présenté, je suis membre du collectif Open Héroïne, que je pense on pourra représenter tout à l'heure. Et sinon, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Code for France et je gravite dans le milieu du libre depuis 4-5 ans.
D'accord. Katia Resti ?
Oui, moi je suis du coup ingénieure en informatique chez Red Hat et je suis membre de Duchesse France, comme présentera tout à l'heure aussi, depuis 2010. Et voilà, je fais de l'open source en Java, particulièrement.
Alors je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Resti dans notre émission sur le métier du développement logiciel libre, donc le podcast est disponible. Et on a aussi eu déjà Caroline Corbal, alors je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est disponible sur le site de Cause Commune et de l'April. Catherine Dufour.
Oui, bonjour, moi je m'appelle Catherine Dufour, moi je suis aussi ingénieure en informatique, je fais des bibliothèques numériques. Et puis, je fais des chroniques au mon diplôme et je donne des cours à Sciences Po et je suis auteur de science-fiction.
D'accord. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on ne va pas aborder tous les thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste. Hein. C'est une première émission sur le sujet. Mais déjà, première question, un petit peu le constat. Pourquoi on parle de ce sujet-là, donc de la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre, alors qu'en fait, initialement, ce n'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire, un peu rappeler les premières. Alors je précise qu'à la radio, ils se font des signes pour se passer la parole. On va commencer sans doute, oui, par Catherine Dufour. Donc, notamment, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans l'informatique? Comment ça se passait il y a quelques années?
Non, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc, l'informatique, ça a commencé quoi? La Seconde Guerre mondiale, on va dire, en gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créé, genre, en 1890, par Ulrich. Mais, globalement, la partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis le soft, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un des premiers gros ordinateurs, le Mark One, c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est Seconde Guerre mondiale ou juste après. C'était l'ENIAC qui a été programmé par six mathématiciennes. Et donc, la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis, dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morlet, à mon avis, vous le trouverez sur Slate, sur le sujet. Dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout. Et donc, les salaires ont commencé à monter. Donc, il y a eu une réaction, hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des payes pareilles à des femmes. Et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc, je crois qu'à l'époque, il y avait quoi, 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais plus les chiffres exacts, c'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les paroisses, on dit que les femmes sont 12% ou 20% du secteur. Mais il y a eu une volonté ferme de renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
Donc en fait, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez compléter sur cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel, hein? Katia,
Katia Resti. Oui, pour l'historique, je pense que c'est très très bien résumé. Merci. Pour le constat actuel, aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière pour travailler en tant que développeuse, et plus on veut rester technique et avancer, du coup tu avances ta carrière, plus on voit qu'il y a plus de femmes qui quittent et qui vont être poussées plutôt à faire du management, du product owner, du fonctionnel, très très tôt dans notre carrière. Ils nous poussent plutôt à aller vers ça, plus que les hommes, je dirais. C'est comme si on voyait que, comme les hommes de toute manière sont plus geeks ou ils vont peut-être s'épanouir plus pour devenir techniquement très forts avec les années, et que nous, on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus social, etc. Et donc, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, quand t'as 14 ans d'expérience comme moi, on voit qu'il y a moins de femmes, et dans l'open source, encore moins.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur la spécificité, effectivement, peut-être du libre. Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, bah, que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet, ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement, la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres. Il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins. Et ça, j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible. Il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore au quotidien, trop de situations de sexisme ordinaire qu'on doit subir. Et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, ce qui me semble très problématique.
D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle? C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
J'aurais pas de réponse. Je dirais que très probablement, de toute façon, on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser aux filles. Mais c'est juste du feeling. J'ai pas de données chiffrées là-dessus. Oui, c'était pour reprendre ce que va dire Katia est très important. C'est que il s'agit pas uniquement de plafond de verre. C'est un plafond de verre. Vous montez en même temps que les hommes, puis à un moment, plouf, vous arrêtez et il continue. C'est ce qu'on appelle le couloir de verre. Alors là, je voulais vous raconter une petite anecdote. C'est que une fois, je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout féminisme et diversité. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés et on fait une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de détruire les inégalités. Et l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier. Et puis après, ils nous ont dit, c'est pas tout ça, mais nous, on a conseil d'administration, on va vous laisser discuter entre vous. Donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les fonctions, effectivement, comme disait Katia, un peu molles, un petit peu dans le sociable, mais qui ne sont pas le nerf de la guerre, qui ne sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que c'est pas tellement qu'on les empêchait de monter, c'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions molles où on est facilement remplaçable et où on prend pas les décisions importantes. Et les hommes gardent en attribution, je dirais, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà, donc on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre, mais en fonction de couloir de verre. Et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc je félicite Katia pour avoir résisté à la pression de prendre ce couloir.
Et alors, avant de redonner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse, et d'écouter le podcast de son émission avec Katia, et c'était avec Emmanuel Ravière aussi, où ils ont expliqué qu'on pouvait être développeur et développeuse de logiciels, et en l'occurrence de logiciels libres, pendant des années et des années, que devenir chef de projet ou faire du marketing, c'était pas la voie absolue. Hein, donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, est-ce que par rapport à ma question sur les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que Katia ou Caroline, vous avez un commentaire là-dessus, ou pareil, vous n'avez pas de réponse
Katia. Moi, je pense que effectivement, j'ai pas vécu ça parce que justement, mon père, en fait, je pense que mon père, il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure parce que il voulait. Et depuis que j'étais genre toute petite, j'avais 3-4 ans, qu'on demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande. Moi, je disais, je voulais être ingénieure parce que lui disait, tu vas être ingénieure, machin. Mais donc après j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette voie, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela, c'est vraiment moi qui a choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas est que lui m'a poussé à beaucoup de choses. C'est lui qui a amené les Lego à la maison, il a acheté des jouets typiquement plus orientés pour des garçons. Marketisé pour les garçons, donc pas rose, mais j'avais aussi des poupées, énormément de poupées, je faisais la peinture, je faisais la danse, etc. Disons que j'étais exposée à tout, Et donc ça, j'ai pas vécu. Mais je pense que mon père m'aurait offert. Moi, j'ai eu un ordinateur après et tout. Donc oui, je crois que ça peut avoir une grosse influence. Ou de quoi on te pousse à la maison et que tous les stéréotypes de la des jouets, etc. Ça joue forcément. C'est en quoi on joue quand on est petit, qu'on grandit avec ça quand même. C'est du coup, je pense qu'il doit forcément eu avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps, j'ai pas des dates. Hein, donc.
Alors, on reviendra sur ce sujet, désolé, justement, dans le cours de l'émission, sur le rôle de l'éducation, des parents, de l'école, etc. Et juste après, on va aborder un peu le sujet aussi de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que, Caroline, toi, sur la partie expérience des années 80, alors même si de mémoire, tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une expérience ou des commentaires à faire?
Je rejoins Katia, moi j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur dans les mains, donc c'était dans les années 90, et donc j'ai pu essayer ça dès le début, et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers. J'espère de toute façon qu'à terme aussi dans les foyers, on aura de moins en moins ces discriminations.
D'accord.
Sur ouais.
Ok. Alors là, on va parler un petit peu de ce qui, même si tu, Caroline a commencé, sur ce qui aggrave la situation, c'est ce qui peut améliorer la situation aussi, les propositions concrètes. On parlera aussi peut-être des spécificités peut-être du logiciel libre, s'il y en a par rapport à l'informatique en général, hein, parce qu'il peut y en avoir. Mais Catherine Dufaux, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais juste dire que la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre.
Père, P-A-I-R.
P-E-R-E,
P-E-R-E,
avec un accent.
Okay.
J'ai écrit un livre, Le guide des métiers pour les petites filles qui veulent pas finir princesse, où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, agentes secrètes, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, celles qui font de la voile, celles qui font du combat rapproché, enfin bref, des choses de vues comme masculines. C'est systématiquement le père qui autorise, hein. Je sais pas, Émilie du Châtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18e, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur du fait qu'une femme s'affranchisse des limites imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre aux femmes, c'est d'autoriser votre fille à sortir justement de ses limites et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve systématiquement.
D'accord, excellente intervention, et on reviendra sur la partie éducation plus en détail encore après. Caroline, tout à l'heure, tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation, parce qu'on a bien compris l'historique, mais aujourd'hui, il y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon rapide, et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces points négatifs et les propositions concrètes? Et là, on parlera un peu plus de vos structures et de vos actions. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très 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 belle?
Alors, déjà, je dirais que ça dépend du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple des entreprises et des associations, qui sont deux milieux que j'ai pu pas mal expérimenter, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci. Entre équipes, on a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque. Par exemple, prise de risque lors d'événements à inviter des intervenantes qui sont moins expérimentées, en se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance à des femmes plus jeunes. Et si on ne le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là pourront jamais se former. Ensuite, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion sont traités parfois aggrave le problème, parce que soit c'est traité comme des enjeux de communication sans action concrète derrière, ce qui peut les desservir, soit parfois c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes, par exemple de faire peur à ses clients, au public, et ça je pense que c'est vraiment regrettable. Et dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé, parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom, alors que c'est pas le cas avec la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça aggrave clairement le problème, parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier dans des rôles modèles féminins.
Très bien, en plus ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour, donc guide du métier pour les petites filles, où justement vous avez
c'est des rôles modèles
des rôles modèles anciennement, oui. Enfin, anciennes et actuelles,
Voilà.
Donc pour que effectivement, et ça c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué justement sur ce rôle modèle, et notamment avec Duchesse France, pour la mise en valeur des rôles modèles. Que vous voulez compléter, Katia ou Catherine, sur cette partie vraiment aggravation de la situation, ou est-ce qu'on passe directement aux choses plutôt positives, c'est-à-dire que comment améliorer les choses?
Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Alors, en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier, avoir un minimum de parité, qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle experte.com qui est très bien, où vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
Katia, tu
ouais, mais non, rien. Non, c'est, tout a été dit, je pense.
D'accord.
Et très bien expliqué.
Alors, on va parler peut-être des propositions concrètes, ou en tout cas pour résoudre ce problème. Et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu vos initiatives et puis d'autres initiatives, sans doute. Hein. Il y a pas que les vôtres, évidemment. Mais on va peut-être commencer par Duchesse France, donc avec Katia Aresti. Donc, comme tu l'as dit, donc toi, tu es développeuse donc chez Red Hat, une entreprise du logiciel libre, et tu fais partie de Duchesse France. Alors, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos actions, principales actions?
Donc, Duchesse France, c'est une association qui a été créée en début 2010 par quatre femmes qui avaient un constat de... Ils faisaient des soirées techniques à Paris et elles se disaient pourquoi il n'y a pas plus de femmes, elles sont où les autres femmes, etc. Peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées, etc. Du coup, elles ont créé ça justement avec l'idée de dire vous n'êtes pas toutes seules. Il y a plus de développeuses et des gens, des femmes techniques, donc rencontrons-nous et créons comme ça. Donc ça, c'était l'origine du groupe, et je me suis inscrite au groupe dès le départ, dès la création du coup en mars 2010, et ensuite j'ai rejoint en tant que membre de organisatrice 2-3 mois après. Donc je suis vraiment, je suis pas fondatrice, mais je suis là depuis les fondations. Et en fait, oui, nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes, pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, mettre en place, on a toute une communauté dans laquelle, sur Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter.
Précise ce que c'est Slack.
Slack, c'est un chat.
D'accord.
Un logiciel qui sert à créer des canaux, des chats.
De communication.
Voilà. Et que du coup, on peut poster sur différents sujets, échanger, etc. Des trucs techniques comme personnels, n'importe quoi. Puis, on organise aussi des soirées techniques à Paris. On essaye que les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou un homme à une femme. Parfois, ce n'est pas possible. Du coup, on va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à parler, à partager sur leurs connaissances techniques. Et donc, on fait des soirées autour de ça. Et voilà, et ça peut être aussi simplement un apéro. Voilà, on fait plein de choses. Et le seul truc qu'on n'est pas méga structuré, dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois, je sais pas comment, c'est vraiment au besoin,
au feeling
et aux disponibilités de chacune, parce qu'on est quand même, on fait tout ça en bénévolat. Et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même. Et on a une vie, la plupart, on a une vie de travail, plus famille, plus mille trucs. Hein. Mais la communauté est quand même assez grande. Et sur Meetup, qui est un site pour justement rassembler, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent, on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000. En fait, il y a plein de meet-up, donc de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes, souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être t'as une femme, voire zéro. Genre vraiment, les pourcentages est beaucoup plus petit. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes, on ferme personne, en fait.
D'accord.
Voilà.
Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les réunions mixtes ou non mixtes. Qui peuvent avoir leur important, les réunions non mixtes. Je relaie une question, ou plutôt une suggestion qui est sur le salon web, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous sur causecommune.fm. Donc il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme de question, d'enregistrer les conférences et de les publier, et en plus je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire, parce que Marie-Odile c'est notre personne qui transcrit retranscrit les conférences. Donc, question, est-ce que ces conférences sont enregistrées?
Celles qu'on fait avec Duchesse? Oui. Si la salle qui nous héberge, il y a moyen, d'accord, oui. Mais sinon, non. Et parfois, c'est juste que c'est des ateliers de coding. Mais c'est pour les pros. Ce qu'on fait souvent, c'est pour les pros. C'est pas pour initier des gens au code, mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là. Donc, c'est des choses assez pas techniquement poussées, en fait.
D'accord. Caroline Corbal, de ton côté, donc Open Heroine, je pense que c'est assez proche, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites?
Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Open Heroine, en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a 4 ans pour rassembler les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'open data, l'open gov, les communs numériques, etc. Et donc ça, c'est un réseau international. Toutes ces femmes-là, donc là, pour le coup, c'est fermé aux hommes. C'est uniquement pour les femmes. Elles se retrouvent sur un Slack international. Et avec une amie, Cécile Le Guen, on a décidé, il y a 2 ans, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau face au constat, en fait, qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler entre femmes dans des espaces safe, donc où on se sent en sécurité pour en parler. Et donc voilà, Open Heroine en France, c'est un réseau de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du jour, pas de seuil de bullshit, de, comment dire en français, de... on parle de choses sérieuses, quoi.
Voilà.
On parle de choses sérieuses, il n'y a pas de post-it, pas d'heure du jour, pas de feuille de route. On va boire des bières régulièrement. On a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique, d'ailleurs, qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le sujet du numérique. Et donc, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Et on rajoutera la boucle de discussion.
D'accord.
Ok, oui.
Donc, invitation lancée. Petite question, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu pourrais expliquer l'importance de ces rencontres non mixtes? Parce que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou bien sûr Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes?
Oui, alors en fait, c'est vraiment là pour le coup, né du constat qu'entre femmes, on se parle pas de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent pas à des réunions où il y a des hommes, ou alors si elles gênent, elles n'osent pas prendre la parole de la même manière, et que vu l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait, on avait besoin d'espace où on se sent en sécurité, on se sent bien pour aborder ces problèmes. Alors parfois, on parle de soucis liés justement au sexisme ordinaire, de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisque on peut en parler librement. Mais on parle aussi d'autres sujets et je pense que la non-mixité, c'est pas l'unique solution, mais c'est une solution. Enfin, c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes, parce que j'ai vu sur vos sites que vous aviez pas mal de propositions, et notamment on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement, quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale, on va écouter Edge of Feminine par Killing Maze, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune, 93.5. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? This system has long been a joke. Patriarchy, they're killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second toke. He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, snorting up that coke? That's conscious on your side, do you feel her vote? And we don't want E.K. animals. Sick of
the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls? Are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop popping the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that internal doubter. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Na koi majuna bani, kaam karwayenge. Apne kamyabi se kuch ban jayenge. Na koi majuna bani, kaam karwayenge. Apne kamyabi se kuch ban jayenge. Choices, take over, watch the babies die. Polluted air, gun blast, see the way they cry. You've been muted, lick a shot, so I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we creep. But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk, he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with azo infects. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend. Breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread the positive vibe. One of us, the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside. But when the women gather, the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, let's be real. See the beauty inside, you've been duped, break the seal. Holy prophecy, Nostradamus from the sea. It's our duty to return the mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? And all my ladies in the ears. And all my ladies in the ears.
Nous venons d'écouter Edge of Feminine par Killy Mays, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Héroïne et de Duchesse France. Alors je précise que Duchesse est sans E à la fin. Donc on mettra évidemment les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause Commune. Et on commençait un petit peu à parler de, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les problématiques, elle a cité ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les panels d'intervenants. Elles sont avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quels conseils donnez-vous et je crois même que d'ailleurs, Katia Aresti, tu participes à un comité de programme de mémoire.
Oui.
Alors, justement, donc, on va commencer par Caroline parce qu'elle est au téléphone. Quels conseils vous pourriez donner donc aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes ou des événements, soit informatiques, soit libristes, hein, peu importe, pour justement donner la place que les femmes mérite d'avoir. Donc, Caroline Corbal.
Alors déjà d'être vigilant sur cette question des manettes, donc déjà avoir un comité de programme qui est paritaire, c'est un bon départ, il me semble, enfin, c'est même une condition minimum. Ensuite, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils féminins, la question du référencement qui était évoquée par Catherine tout à l'heure, il y a la plateforme Les Experts, du coup, qui est disponible et consultable, et une autre plateforme pour l'international qui s'appelle speakerinen.org, où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas encore se référencer sur ces plateformes.
Speaker quoi ?
Speakerinen.org. On mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, parce qu'effectivement, c'est pas évident à prononcer. Merci. Et je précise aussi, et je te redonne la parole, que sur Duchesse France, il y a une liste d'expertes techniques. C'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Aresti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre.
Et donc, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, mon message, c'est vraiment référencez-vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et ensuite, pour terminer sur les conférences, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel chacun et chacune se sentent en confiance pour intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux États-Unis, où par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
D'accord. Katia Resti.
Je vais rajouter... Déjà que souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs est que dès qu'il y a un panel dans lequel il n'y a pas de femmes ou etc. Il y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode mais pourquoi il y a pas qu'est-ce que vous avez fait, vous avez fait de la merde, etc. Et en fait souvent c'est des hommes qui organisent ou qui ont une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes, mais majoritairement des hommes, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher. Mais il y a des femmes qui ont dit non pour y aller, parce que souvent on est les mêmes qui en est sursollicités. Et pourquoi je trouve que c'est un problème, c'est pas que nous on dit non. Les problèmes est que souvent ça arrive que justement les personnes qui organisent, ils se disent ah, on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes-là? Et donc ils connaissent que très peu. Parce qu'en fait, ça suffit pas de s'intéresser à faire venir des femmes parler, juste pour cocher une case diversité. Il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence. Parce que comme ça, quand on va t'inviter, tu vas savoir que c'est pas parce que t'es une femme, ce qui est une horreur quand tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que t'es une femme, parce que voilà, dès que t'es visible, t'es quand même un peu sursollicité, et t'as quand même cette impression là. Donc c'est un truc qui revient souvent quand on discute c'est Duchesse France, cet truc que tu te dis est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que je vais cocher une case diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur pour y aller et oser se lancer. Donc oui, le conseil fondamental que moi je donne aux gens, déjà comme elle a dit Caroline. Ouais, et d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines. S'intéresser avec beaucoup d'avance. Parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même, cette communauté, ça s'agrandisse et les femmes ont vraiment envie d'aller parler dans leurs conférences. Et voilà. Tu vas pas avoir cette impression de oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case diversité et pas avoir un Twitter bashing derrière.
D'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est Agnès Crépet que tu connais, mais qui est maintenant à Amsterdam chez Fairphone. Et donc en cherchant un petit peu des profils techniques, j'ai vu voilà qu'il y avait ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos compétences techniques. Et nous on cherchait évidemment quelqu'un qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel, ce qui est pas forcément évident, comme tu le disais au début. Les gens qui ont 15 ans d'expérience de logiciel, c'est pas forcément évident. Vous voulez sur cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça, c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est mise en avant la compétence technique. Mais comme tu le dis, effectivement, il faut pas s'y intéresser au dernier moment et ça nécessite un travail. Et je pense, alors je vous poserai peut-être la question, ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes. Ça doit être la responsabilité du comité de programme,
oui,
globalement, d'avoir cette démarche-là, qui certes... j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, quand tu parlais des... Oui, et je te laisse réagir. Une question comme ça, vous pourriez répondre. Est-ce que c'est un truc qui est dur à combattre? C'est peut-être l'habitude des hommes des réseaux, d'être entre eux. Est-ce que vous l'avez vécu, ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être entre eux?
Justement, je pense que c'est quelque chose que moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins. Je suis tellement habituée à... J'ai beaucoup d'amis hommes dans l'informatique. Mais du coup, je veux avoir cet intérêt-là. Donc, je comprends que les hommes aient par défaut un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis, mais il faut qu'on essaye tous de briser ça des deux côtés en fait, et que c'est ça qui va aider à s'ouvrir à des choses que justement peut-être au début tu vas pas forcément t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens, pas et en plus pas que par rapport homme-femme, mais c'est aussi par rapport techniquement. Si tu fais beaucoup de trucs des back-end, te dire mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le back-end. Désolé. Si tu fais beaucoup des Java, peut-être tu devrais aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript.
Voilà. Ce sont deux langages de programmation qui sont pas exactement pareils.
Voilà, je sais pas. Il faut quand même pas essayer. Il faut
d'accord,
une ouverture dans tous les aspects. Ça aide à justement à aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait.
D'accord. Catherine Dufour, je vous laisse réagir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Comment aujourd'hui dans le recrutement de l'informatique on peut encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui sont recrutées après? Catherine Dufour.
Oui, moi je me rappelle de mes débuts en tant qu'autrice de science-fiction, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça parce que moi je suis la cacochime de l'émission, hein. J'ai 53 ans, donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois quoi. Et ben j'y suis allée, et moi j'étais timide et j'aimais pas parler ni sur des estrades ni dans le poste, et j'y suis allée parce que sinon il y avait pas de femmes, il y avait personne, et il faut y aller, et après le micro vous l'arrachez des mains des hommes, vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole. Vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous, et vous parlez et vous râlez et vous protestez, et que comme ça qu'on y arrivera. Peut-être que dans trois générations le sexisme sera plus qu'un mauvais souvenir, mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent justement à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur, parce qu'on l'a toutes. De toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur, hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou, après vous l'installez vous le mettez sur votre chaise et puis vous asseyez dessus, des deux fesses. Voilà. Parce que les hommes ne l'ont pas. Moi, je suis allée à des tas de conférences avec des hommes. Alors ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule et ils me passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun en veut la plus grosse part. Est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus, et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je vous parle même pas de la population non blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc il faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. C'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, si vous appréciez la prise de parole de Catherine, je vous encourage à lire son livre Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres. Notamment, vous allez découvrir plein de choses sur Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Et puis par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique? Et puis la question, oui, que j'ai oublié de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre par rapport à l'informatique en général, ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité? Caroline Corbal.
Alors, ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup de questions.
Déjà, je suis hyper d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être aussi sur le côté les hommes sont beaucoup entre eux. C'est quelque chose que j'ai énormément vu et ressenti. Et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer, parce que j'ai aussi vécu des cas où ce n'était pas le cas et j'ai reçu des refus de femmes à m'aider, à me tendre une main, notamment parce qu'elles avaient sûrement accédé à des situations de pouvoir aussi. Et c'était des mécanismes qui se répètent, je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment dur et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien nous aussi. Et sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs pensent à adapter impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres de manière plus inclusive. Il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres, les partager sur les bons réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a des dizaines de réseaux qui sont dédiés aux femmes dans le numérique et il faut envoyer ces offres sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, il ne suffit pas de recruter des femmes dans vos organisations, il faut aussi les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça implique nécessairement d'investir du temps humain, des moyens, donc c'est forcément un budget et il faut vraiment se donner les moyens pour arriver à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour les événements, c'est exactement la même chose, il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et ça relance Fred exactement ce que tu disais. Je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme. Il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous en interne. Et donc ça, c'est des principes qu'on peut très bien, dans une organisation, élaborer collectivement, par exemple lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite ou autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des parents, pour que les hommes évitent de se faire taper dessus avec un micro par Catherine. Au-delà de d'arrêter de faire des blagues sexistes au travail ou même en société, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Des conseils pratiques ou simplement le conseil principal que vous voudriez leur donner? Caroline.
Moi, c'est un travail que j'avais fait avec mes collègues, notamment de mon ancienne entreprise. Et l'idée, c'était vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait élaborés, c'était déjà de se dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague qui est adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et par convention, par habitude, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal que ce qu'on l'imagine.
D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter, Katia ou Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant? Katia, Aristide.
Dans les conférences ou dans le travail, pas assumer les rôles d'une femme par ses apparences. Mais comme je dirais pareil, genre qu'on n'assume pas que quelqu'un n'est pas assez technique ou que c'est pas assez qui va prendre un rôle ou un autre en fait, parce que t'as l'impression qu'on te prend pas au sérieux. Donc d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que peut-être et s'il est pas technique, peut-être elle va te le dire elle-même. Mais assume pas dans une conférence technique avec 3000 développeurs que la femme que tu croises forcément elle fait du marketing.
Alors justement, ça me fait penser à une question, et après je passe la parole à Catherine. Par rapport au logiciel libre, est-ce que...
Ce qui est très bien, faire du marketing. Hein,
oui, c'est très bien.
S'il vous plaît. Hein,
je crois me souvenir...
C'est très très bien, mais...
Je crois me souvenir qu'il y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel, peu importe le nom, qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que je me trompe, ou ou est-ce que c'est une réalité?
De mon expérience, j'ai une équipe remote. De remote, on est distribué dans tout le monde. Et ils sont tous des garçons sauf moi. Et je ne me sens pas différente aux autres. Et mon équipe est super. Et super, en fait. Je me sens accueillie, soutenue. Quand il faut vraiment dire c'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça, c'est super. Mais je connais, justement, une développeuse qui a été une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Elle avait deux comptes différentes, dont un pour pouvoir envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. D'accord. Et, ouais, elle disait que ça passait plus simplement.
D'accord.
Justement.
Ok.
Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si besoin. Mais peut-être que je me trompe, mais bon, l'intuition doit
pas être... Non, mais ouais, t'as tout à fait raison. C'est une étude qui était sortie en 2016 sur GitHub qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
Alors, les biais de genre dans le logiciel libre. Voilà.
Exactement.
D'accord. Bah on mettra les références sur le site de la radio et de l'April. Et donc, on va maintenant... Catherine Dufour.
Alors, si on veut en savoir un peu plus de façon chiffrée sur ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Genre Société. Donc, c'est une revue qui est menée depuis, je sais pas, 20, 30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marouani. Donc, ils vont tout simplement poser des questions aux jeunes. Que veux-tu faire plus tard? Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit, moi, je veux être maître chien, on lui dit, oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont 2. Et les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bites sur leur boîte à outils, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce que, en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va faire coiffeuse. Donc, malheureusement, ça change pas tellement. Et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, les femmes, c'est comme n'importe quel peuple opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais alors, le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognita à défricher. Et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi se débrouiller avec. J'en suis ravie.
Vous venez de parler des enfants quand ils ont des ambitions de métier, quel qu'il soit. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier avant les petits conseils de lecture et de podcast, sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de l'éducation, des parents, de l'école. Donc Katia a raconté son expérience avec son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là? Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif français? Caroline.
Moi, c'est peut-être oui, juste sur le système éducatif, que l'école apprenne davantage à connaître les nouveaux métiers qui utilisent le numérique, ou alors même tous les métiers maintenant vont utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà. Et ça, je pense qu'il faut que les conseillers d'éducation et les profs qui accompagnent les élèves dans leur choix puissent mieux parler de ces métiers-là, davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle fort des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'il y avait eu avec l'école 42 et qui un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées brillamment dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations de sexisme, de blagues, de réflexions sur leur tenue, etc.
Alors ça fait penser en termes d'école, et après je vais passer la parole à Katia et Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, ou je crois qu'elle va ouvrir, qui s'appelle Ada School, donc principalement à Paris je crois, mais sauf erreur de ma part, mais on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom d'Ada évidemment est choisi en référence à Ada Lovelace, dont on parlera donc sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, enfants, amis des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles par rapport aux enfants. Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose?
Moi, je constate que les enfants tout petits, ils jouent vraiment le rôle d'illimitation. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, ils ont 2 ans d'écart. Quand ma fille a vu, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand elle avait 3 ans et demi, là. Et d'un coup, elle s'est mise comment à faire tic, 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 comme ça. Et du coup, le papa l'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je fais comme maman dans l'ordinateur.
Tic, ah oui, tic, alors, tic, je tic, précise que comme on est à la radio, en fait, Katia est en train de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier.
Ouais, voilà. Pardon, désolé, je me croyais à la télé d'un coup.
bientôt.
Non, mais du coup, ce que je vais dire est qu'il y a un rôle d'imitation très, très fort qui se fait depuis que les enfants, ils imitent. Tout. Et justement, il faut éviter de tomber dans des cases en tant que parent. Après, y a nous, et il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc les enfants, je vais dire, moi, j'achetais pas de fringues roses à ma fille, mais là, c'est juste pas possible. En fait, elle le veut. Et malgré moi. Et du coup, je me dis, je sais pas comment... qu'est-ce que je veux faire? Je lui dis non, non, je lui accepte aussi d'être rose. Je vais pas, j'ai choisi mes batailles. Donc, à un moment donné, mais je veux dire, il y a pas que nous, mais oui, essayer de montrer des différents exemples, de donner des choix surtout, donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Essayer de surpasser tout ça.
Ok. Catherine Dufour, vous voulez réagir?
Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant les petites filles de rose. Alors, il y a une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon. Elle ouvre une école pour filles, justement, Saint-Cyr. Et elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne, qui s'achetait des petites dentelles, et puis elle se mettait devant son miroir, et elle se faisait des mines et des duck face, bon, comme toutes les gamines. Et dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc elles sont allées voir Madame de Maintenon en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pend sur la place publique? Est-ce qu'on leur donne 200 ave, 200 pater à réciter? Et Madame de Maintenon a répondu: pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire. C'est-à-dire que globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose en temps voulu. Parce qu'on peut pas lutter contre la société complètement, on peut aiguiller, et puis faut quand même pas trop s'inquiéter, un gamin qui est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose, et s'il est intelligent, par passer à quelque chose de bien.
D'accord. Alors, il nous reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Quel conseil ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants? On va commencer par Caroline Corbal.
Oui, alors moi j'avais pensé à trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais c'est des supports qui des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au podcast Les couilles sur la table, qui est animé et pensé par Victoire Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, toutes les BD de Liv Strömquist, qui est une auteure suédoise, qui est hyper drôle en plus. Et je pense notamment à L'Origine du Monde ou à I'm Every Woman. Donc c'est drôle et ça apprend plein de trucs sur le féminisme et ça donne des grilles de lecture vraiment assez intéressantes, je trouve. Et puis L'excellent sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est là pour le coup un peu plus dense mais qui est tout aussi intéressant.
Alors tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le site, et je confirme que le podcast Les couilles sur la table de Virtuel Taillon est excellent. Catherine Dufour, alors au-delà de vos livres, donc j'encourage vraiment à lire Ada ou La beauté des nombres, je l'ai fini avant-hier, et l'autre que je n'ai pas lu mais que je vais commander, qui est Le guide des métiers pour les petites filles, est-ce que vous avez des conseils de lecture, de podcast ou autre?
C'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Chollet, vous pouvez tout faire, Mona Chollet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. après on se recose.
Alors Mona Chollet, donc, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, a publié un livre Sorcière.
Alors c'est Sorcière, avant elle avait fait un livre, je ne me souviens plus du titre, c'est sur la façon d'habiter chez soi, et avant elle avait fait Beauté Fatale. Non mais tout Mona Chollet effectivement c'est incontournable, et puis si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les Culottés de Pénélope Bagieux, c'est pas mal.
D'accord. Bon, pareil, vous m'enverrez les références que je n'ai pas. En tout cas, les personnes qui écoutent évidemment l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des références. Et puis, il y a d'autres sites ressources. On n'a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est opensourcediversity.org, sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et duchesse-france.org. C'est bien ça?
Ouais.
Alors, sans E à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Hein. Je vous laisse découvrir. C'est un lien avec la mascotte Java. Et Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline?
C'est openheroine.org.
D'accord.
Et pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr.
Ok. Ben en tout cas, je vous remercie. C'était passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Donc nous étions avec Caroline Corbal, donc de Code for France et d'Open Heroine. Katia Aresti, donc développeuse chez Red Hat et Duchesse France. Et Catherine Dufour, ingénieure en informatique, qui a écrit de la fantasy et qui a publié récemment donc Ada ou la beauté des nombres chez Fayard, et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez une agréable fin de journée.
Merci.
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 Nous sommes de retour en direct après la rediffusion de ce sujet passionnant sur les femmes dans les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Vous retrouverez toutes les références citées pendant cet échange sur le site de l'April, april.org. Nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Room 208 par AeroCity. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Room 208 ou Chambre 208 par Aero City, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org. Je précise d'ailleurs que c'est un morceau que Valentin des Joyeux Pingouins Famille avait commenté pour nous lors d'une émission spéciale Libre à vous, spéciale playlist que nous avions diffusée le 16 mars et que vous pouvez bien sûr retrouver sur causecommune.fm et april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors, nous allons poursuivre donc avec la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Salut Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous ?
Je suis là, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Salut, alors je crois bien que tu vas nous parler aujourd'hui de données géographiques libres.
Oui, absolument. Le 9 mars dernier, j'ai eu le plaisir d'animer le sujet principal de Libre à vous consacré au système d'information géographique libre, QGIS. Pour profiter librement d'un tel logiciel, il faut des données ouvertes. Je voudrais saluer aujourd'hui l'ouverture au premier trimestre 2021 de plusieurs jeux de données par un établissement public qui fêtait récemment ses 80 ans. J'ai nommé l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, plus connu sous l'acronyme IGN. Cela représente plusieurs téraoctets de données sous licence ouverte Etalab, parmi lesquelles la BD Topo, une base de données vectorielle qui contient notamment la description des contours administratifs, des bâtiments, des réseaux de transport, des lacs, fleuves et rivières. La BD Ortho, qui donne une couverture photo-aérienne de tout le territoire avec une précision de 20 cm par pixel. Ou encore le RGE ALTI, pour référentiel grande échelle, un modèle numérique de terrain qui renseigne l'altitude de chaque point du territoire. On peut signaler au passage que l'IGN s'appuie sur du logiciel libre, notamment PostgreSQL PostGIS, pour produire la BD Topo. Il me semble intéressant de reparcourir quelques-uns des jalons qui ont permis d'aboutir à une décision que les défenseurs de l'open data appelaient de leur vœu depuis de nombreuses années, le partage sous licence libre des données de l'IGN. Dans son rapport publié en 2018, la députée Valeria Formigian préconisait de diffuser à terme l'ensemble des données géographiques souveraines sous licence libre de type Etalab. Elle expliquait fort à propos que l'économie de la donnée n'est pas régie par les mêmes règles que l'économie réelle. On constate que la richesse de la donnée est établie à partir de l'utilisation qui en est faite et donc de l'accès qui lui est donné. Ainsi, ce n'est pas la vente de données qui crée la valeur, mais sa circulation. Quelques mois plus tard, la Cour des comptes adressait au Premier ministre un référé sur l'enjeu de l'ouverture des données publiques de l'IGN, de Météo France et du CEREMA. Elle posait alors très clairement le problème. Pour mettre fin à l'injonction paradoxale qui menace l'équilibre économique de ces établissements, auxquels il est demandé de développer leurs ressources propres grâce à la vente de leurs données tout en procédant à la diffusion libre et gratuite de celles-ci, il est indispensable que l'État clarifie la réglementation relative à l'ouverture des données et accompagne la redéfinition des modèles économiques de ces opérateurs. Dans sa réponse à l'interpellation de la Cour des comptes, Édouard Philippe, en mars 2019, annonçait sa décision de généraliser la gratuité de la réutilisation des données, notamment à l'IGN. Il ajoutait « Enfin, je partage le constat de la Cour que les services de l'État eux-mêmes n'utilisent pas systématiquement les données ouvertes en open data produites par d'autres acteurs publics. J'ai donc demandé que ces efforts d'ouverture soient soutenus par les services de l'État, que j'ai invité à utiliser préférentiellement ces données ouvertes. » Daniel Burceau, le directeur général de l'IGN, déclarait dans une tribune dans le journal des Échos « Désormais, la production des données géographiques doit s'organiser autour de trois concepts. Mutualisation, collaboratif et libre accès. Il faudra encore 2 ans pour que cette décision devienne effective. J'aimerais prendre un moment pour analyser cette ouverture des données de l'IGN par rapport à la base de données libres OpenStreetMap. Nous avions consacré notre émission du 11 juin 2019 à ce projet collaboratif mondial que l'on désigne souvent comme le Wikipédia de la cartographie. On pourrait penser que ces initiatives sont concurrentes. Je dirais que c'est absolument le contraire. OpenStreetMap reste un projet absolument remarquable par sa diversité et sa réactivité. La communauté OpenStreetMap, qui compte plus de 7 millions de personnes, jardine chaque jour la base de données pour l'enrichir, la compléter, la corriger, la mettre à jour. Les contributeurs expérimentent, ils innovent, et la dimension mondiale du projet permet de produire des cartes qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Les données de l'IGN, quant à elles, ont l'avantage d'offrir une couverture homogène et standardisée de grande qualité sur l'ensemble du territoire national. Les contributeurs OpenStreetMap vont pouvoir s'appuyer sur les données ouvertes par l'IGN pour aller encore plus vite et plus loin. Les collectivités et administrations doivent apprendre à contribuer sur OpenStreetMap, qui fait aujourd'hui référence pour de nombreux usages comme le vélo ou l'accessibilité par exemple. Les réutilisateurs, qu'ils soient services publics, entreprises, associations, écoles, universités, laboratoires de recherche, élus et citoyens, bénéficieront du meilleur des deux mondes. C'est pourquoi il est indispensable que nos décideurs politiques pérennisent le financement de l'IGN pour entretenir les données de référence, renforcer leur diffusion et traduire dans les faits les recommandations numéro 7 du rapport Botorel. Engager la puissance publique sur une voie d'une participation plus active au commun numérique. Jean Castex saluait d'ailleurs récemment l'utilisation des données qui peut contribuer très significativement à l'amélioration des politiques publiques. Je voudrais conclure sur un jeu de mots emprunté à Sébastien Soriano, haut fonctionnaire nommé directeur général de l'IGN au début de l'année 2021. Pour bien comprendre, il faut se souvenir qu'OSM est le raccourci d'OpenStreetMap et SIG, l'acronyme de Système d'information géographique. Sébastien Soriano s'amusait de constater OSM-IGN est un anagramme de mon SIG.
Pas mal. Alors une petite question, est-ce que les cartes de randonnée Scan 25, et tu pourras peut-être nous préciser en deux mots ce que c'est, basculent aussi sous licence libre ?
Alors non, les cartes Scan 25 sont les cartes bleues de l'IGN très connues des randonneurs et elles ne sont pas concernées par l'ouverture des données de l'IGN en open data parce que elles intègrent des données qui n'appartiennent pas à l'IGN, qui sont gérées par d'autres détenteurs de droits, notamment la FFRP, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, pour tout ce qui a trait aux itinéraires de grandes randonnées et de petites randonnées. Et donc l'IGN n'a pas les droits pour ouvrir ces cartes.
Entendu, oui, on voit déjà toute la complexité juridique qui autour de ce sujet. Merci beaucoup pour ces chroniques et en plus pour les personnes qui s'intéressent à la question d'ouverture de données, on sait que l'IGN était un peu emblématique des résistances à l'ouverture et donc c'est très intéressant de voir qu'on progresse enfin et j'ai trouvé très intéressant comment tu montres justement qu'à la fois les communautés peuvent s'appuyer et profiter de ces ouvertures mais que les administrations elles-mêmes aussi profiter de cette sorte de modèle gagnant-gagnant même si je n'aime pas particulièrement l'expression. Merci beaucoup pour cette nouvelle chronique Jean-Christophe, et puis je vais te dire au mois prochain.
Ça marche, au mois prochain, bonne fin d'émission.
Merci, bonne journée, salut Jean-Christophe. Alors nous approchons de la fin de notre émission, alors nous allons terminer par quelques annonces. Alors je vous le disais plus tôt dans l'émission, juste après là, l'émission, nous vous proposons une session d'échange en visioconférence. Hein. Voilà, si vous avez envie de poser des questions, nous faire des remarques, ça commence à 17h pile sur le site visio.libravou.org. Vous retrouverez la référence sur le site april.org. On pourra consacrer voilà, quelques minutes à un échange si le cœur vous en dit. Et puis on débutera dans la même optique des sessions d'échange chaque samedi à partir de 16h, à partir de ce samedi. Ce week-end s'est déroulé, en plus de l'AG, l'Assemblée Générale de l'April, un cycle de conférences, Libre Planète de 2021, organisé par la Fondation pour le logiciel libre. J'ai eu le grand plaisir d'y participer. Donc je tiens tout d'abord à étendre un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé cet incroyable événement 100% en ligne. C'est quand même pas une mince affaire. Et je pense que toutes ces conférences seront bientôt disponibles en ligne, des conférences en anglais, étant donné que c'était une organisation américaine. Vous retrouverez, n'hésitez pas à aller sur l'agendadulibre.org pour retrouver des événements liés au logiciel libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal, ainsi que Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Adrien Bourreau. Merci bien sûr à toute l'équipe qui s'occupe des podcasts, ainsi que Quentin Gibault qui découpe avec grand talent les podcasts très régulièrement, et bien sûr à Olivier Gréco, directeur d'antenne. Vous retrouverez sur le site web, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les références utiles sur le site de la radio causecommune.fm. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'est-ce qui vous a plu. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également l'excellente radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu direct le 30 mars, une émission très particulière puisque ce sera la 100e. Nous essaierons de vous faire découvrir un peu l'envers du décor et nous vous avons prévu quelques surprises. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 30 mars 2021 et d'ici là, portez-vous bien.